Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Rebonjour. Donc, nous sommes à notre quatrième émission Ma commune est vitale. Nous allons continuer.
La commune est utile.
Est utile.
Elle est vitale aussi.
Elle est vitale et utile. Nous allons continuer notre débat sur le grand débat. Alain, as-tu des choses à nous dire par rapport à ça? Où en est-on aujourd'hui sur le département par rapport à ça? Parce que je crois que tu as participé avec beaucoup de débats. Tu as rencontré des ministres, peux-tu nous faire un point sur la situation aujourd'hui?
Alors la situation déjà par rapport au grand débat, j'ai reçu un coup de fil du référent du département, c'est-à-dire le préfet de Nontron, le sous-préfet de Nontron. Et donc, c'est une annonce que je fais à tous mes collègues maires qui ont des cahiers de doléances ou qui ont fait un cahier citoyen par rapport au grand débat. C'est de faire remonter tous les éléments qu'ils ont. Tout sera clôturé demain soir. Demain soir, au plus tard, mercredi à midi. Et le sous-préfet m'a dit qu'il fallait les amener directement à la gendarmerie la plus proche, qui, elle, les fera remonter au niveau du département. Après, ils seront dépouillés, ils seront numérisés. Et toutes ces questions groupées seront envoyées donc au staff à l'Élysée. Par rapport à la start-up qui s'occupe de ça, pour être récupéré et puis en faire une synthèse nationale. Voilà, alors donc, chers collègues maires, surtout à partir de mercredi midi, il faut que vos cahiers de doléances et vos grands débats, les cahiers de vos grands débats, soient dans les gendarmeries le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier point.
Donc ça veut dire qu'a priori, le débat va être raccourci?
Et je l'avais lu par la presse nationale, j'ai l'impression, oui, à travers le message de M. le sous-préfet, que le débat va être raccourci, ou du moins, il commence déjà à se structurer de façon qu'il y ait des réponses. Alors justement, là, c'est par rapport, puisqu'on est là, on va l'aborder, nous, les maires ruraux, on a beaucoup participé. Je crois qu'on a beaucoup aidé le gouvernement par nos cahiers de doléances, parce qu'on est les éléments de proximité dans le département et dans tous les départements. Ce que nous souhaitons, c'est que derrière, et je l'ai déjà dit à plusieurs ministres, donc je l'ai dit au Premier ministre, je l'ai dit à Elisabeth Borne quand elle est venue pour inaugurer les travaux sur la ligne de chemin de fer Bergerac-Sarlat à Bergerac. Je l'ai dit aussi à Mme Schiappa qui est venue à Bergerac la semaine dernière. Je lui dis, c'est bien beau, un grand débat. D'ailleurs, il a énormément de succès. Mais derrière, il faut qu'il y ait des remontées, des résultats, surtout. Et si M. Macron ne donne pas des résultats probants vis-à-vis des mairies et vis-à-vis des maires ruraux, je pense qu'on est en train de préparer l'après-débat. Et soit ça se passe bien, ou ça se passe moins bien. Donc nous verrons, nous aviserons. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que je suis en contact permanent avec le président Vanik Berberian et avec Cédric Zabo, le directeur général de la MRF, et que nous préparons quelque chose si jamais les maires n'en étaient pas écoutés.
Brigitte, as-tu des choses à rajouter par rapport
oui,
à ça?
Oui, des choses à rajouter en disant que bon, ce grand débat, il a le bénéfice de faire parler des gens, les anciens surtout. Je trouve qu'on a beaucoup plus de retraités dans nos débats que de jeunes. Mais je tenais à dire qu'il ne faut pas qu'ils s'éternisent, parce que derrière ça, on sent quand même, même si maintenant, il faut faire très attention. Tous les gens qui ont des revendications à faire ne portent pas les gilets jaunes. On a fait un amalgame dangereux. Tous ceux qui sont gilets jaunes maintenant, c'est des dangers. Hein, mais il faut penser qu'il y a des gens chez nous qui n'ont pas les gilets jaunes et qui sont prêts à intervenir. Et qu'il va falloir que derrière toutes ces réunions, toutes ces discussions, qu'il y ait quelque chose qui bouge, mais bien, qui bouge bien et fort, et qu'on envoie un bon signe aux concitoyens. Parce que sinon, ça ne se passera pas bien.
C'est-à-dire que vous attendez à ce que le président apporte des réelles réponses aux attentes de nos concitoyens et pas des réponses sur autre chose.
C'est plus qu'une évidence. C'est même un devoir de sa part de répondre. On ne peut pas avoir 900 000 réponses sur les réseaux sur les réseaux sociaux et si on fait sur le site prévu à cet effet, sans que derrière il n'en tienne pas compte. Mais malheureusement, on a l'impression qu'il est encore dans la non-écoute de ce qu'on dit, et pour preuve, c'est que pendant que le débat a lieu, on lui avait demandé de suspendre les démolitions des services publics, mais la démolition continue, quoi. Je le vois en Dordogne, on nous a supprimé encore des perceptions, celle de Sigoulès, Sigoulès-Sossignac. Je vois que pour les écoles, Brigitte va en parler, mais la dernière commission, ça ne s'est pas si bien passé que ça, et je m'aperçois, quand je lis les journaux, que nous allons avoir des postes en moins, que nous allons avoir des classes en moins. Donc il faut faire le rapport de force par rapport à tout ça. Et puis, derrière ça, bien sûr, dans les grands débats, j'ai participé à plusieurs. Le dernier où j'ai participé, c'est à la mairie de La Mauzie-Saint-Martin. Il y avait 135 personnes dans la salle, en compagnie. Alors j'ai fait ça en partenariat, mais on était plusieurs intervenants, donc moi pour les maires ruraux, et nous avions notre député Michel Delpont, qui, et on a constaté quand même à travers la population, à travers les gilets jaunes, que quand moi j'intervenais pour des sujets de ruralité, j'étais applaudi, et quand Michel Delpont intervenait pour des sujets d'En Marche ou qui touchaient de proche le gouvernement, il était plutôt houspillé, pour ne pas dire hué. Donc ça démontre bien qu'il y a un état d'esprit qui n'est pas serein pour le moment. Et il faut comprendre aussi certains gilets jaunes, je dis bien certains, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'amalgame, et c'est vrai que c'est triste, c'est très triste de voir toute cette violence. Moi je suis vraiment opposé à ça, c'est pour ça que j'ai demandé... On en parle avec les gilets jaunes, avec certains gilets jaunes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être déposer les gilets, il faudrait peut-être arrêter d'aller sur les ronds-points et trouver une autre façon de manifester son mécontentement, parce que aujourd'hui, ils sont pris à partie par une population qui ne comprend pas tout, et je pense qu'il faut réellement, il faut que la démocratie l'emporte. Et s'il y a un lieu bien démocratique, c'est la mairie. Et particulièrement la mairie rurale. Nous, on est à l'écoute de nos populations. Comme l'a dit Brigitte, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui n'ont pas de lien direct avec les gilets jaunes, mais ceux-là, ils vont compter aussi. Ils vont compter.
Vous n'avez pas peur que s'il n'y a pas les réponses que la population attend, ça risque, par contre, de devenir beaucoup plus violent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires... Vous avez participé au débat, vous avez fait des cahiers d'oléances, vous êtes battu auprès de vos populations pour que les revendications puissent remonter. Si demain, il n'y a pas ces attentes qui sont satisfaites, vous ne croyez pas que ça va monter un grade de plus contre la démocratie? Parce que c'est ça le gros souci.
On ne laissera pas faire. On ne laissera pas faire, et on prépare déjà l'après-débat. Et donc, si l'après-débat ne nous convient pas, s'il n'y a pas de réponse positive à ce que les cahiers ce qui ressort du grand débat, nous, les maires ruraux, nous allons bouger. Nous sommes en train de préparer des actions, nous allons bouger. Mais on ne peut pas bouger avant d'avoir les résultats. Ça, c'est une évidence.
Mais on a vu la semaine dernière, quand le président de la République a rencontré le président national des maires ruraux dans son village. Est-ce qu'il a apporté quelques réponses sur la question de la ruralité, entre autres, parce que c'est ça qui est important? Est-ce qu'il a été entendu?
Le fait qu'il soit venu chez le président berbérien, à Gargilès, c'est un signe comme quoi il reconnaissait quand même que les maires existaient. Mais ça ne suffit pas. Et c'est vrai que moi, j'en ai eu des échos, et beaucoup de maires ont donné leurs sentiments. Alors bien sûr, la presse n'a fait que l'écho d'André Léniel, qui est le premier vice-président de l'AMF. Mais je pense que dans la salle, il y avait beaucoup, beaucoup de maires ruraux qui, comme dans tous les autres débats, hein, où il y a eu des maires ruraux, lui ont dit en face ce qu'ils pensaient un petit peu de ce qui se passait au niveau national, par exemple sur la loi NOTRe. Bon, il a dit qu'il allait revoir la loi NOTRe, mais on attend de voir ce qu'il va faire. On lui a parlé, bien sûr... De la différence de dotation globale de fonctionnement vis-à-vis des métropoles et puis du monde rural. Donc ça, il faudra quand même équilibrer ces choses-là. On lui a parlé de la compétence eau et assainissement qui a été prise à la va-vite et votée par l'Assemblée nationale, alors que nous, on est contre, et qui va amener beaucoup de problèmes. Donc ça, il va falloir qu'il revoie. Il y a tout un tas de choses qu'on attend et que les maires attendent. Et je pense que s'il n'y a pas derrière une coupe franche dans certains sujets que nous souhaitons, on risque, c'est sûr, avoir beaucoup de frustration. Et j'espère que le président ne se sera pas servi des maires ruraux pour rien, quoi. Nous sommes là au plus proche de nos populations. On a besoin de nous, mais il faut que le président nous écoute.
Ouais, j'ai rencontré quelques élus qui m'ont donné effectivement ce sentiment de peut-être un piège tendu par Macron en allant à Gargilès rencontrer le président et le bouquet en disant « Vous voyez, j'ai réussi à discuter avec les maires, les mettre en position difficile parce qu'aujourd'hui, il voudrait peut-être que ce soit vous qui reproduisiez un petit peu sa politique et le résultat du grand débat, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va donner derrière, surtout s'il n'y a pas les attentes. Donc on risque de se trouver devant quelques difficultés. Qu'est-ce que tu en penses, Brigitte ?
Ben oui, moi je pense oui, tout à fait à ça. Alors on ne peut pas non plus nier que M. Macron est un fin négociateur, est un rusé. C'est un jeune, bon, voilà. Et il a su aller, je serais tentée de dire, s'est mis dans la gueule du loup. Et il est parti voir ce qu'il y avait, mais je pense que le gouvernement doit s'exprimer rapidement et clairement sur ses intentions quant à la considération qu'il porte à nos villages, et c'est toute la crédibilité du grand débat qui en dépend. Et il va falloir qu'il ose un peu se mouiller, qu'il fasse des annonces. On a eu quelques annonces dans la presse, compte par Sébastien Lecornu qui plaide pour un mouvement de décentralisation, qui essaye de nous faire des courbettes lui aussi. Mais il est avec Macron, donc on ne peut pas non plus lui donner toute notre confiance. Maintenant, on l'attend sur des actes. Il va falloir qu'il parle vite, parce que je pense que s'ils ne le font pas rapidement, ça risque d'aller mal.
Pour revenir sur la question des actes, tout à l'heure, Alain, tu parlais qu'il y avait un certain nombre de choses qui se passaient dans les départements et voire à l'Assemblée nationale, des lois. Ils n'ont pas arrêté de voter les lois, quoi. Aujourd'hui, la semaine dernière, ils ont voté la loi sur l'école, ouais. Avec un gros problème sur le financement des écoles maternelles, entre autres les écoles privées, par les communes qui n'existaient pas avant. Donc, les mesures qui sont prises sur les départements, Brigitte, tu préciseras tout à l'heure sur la question de
Brigitte
de l'école.
Peut le faire de suite. Elle était à la dernière réunion, moi je n'ai pas pu y assister. Alors, c'est elle qui est déléguée pour la MRF au niveau des écoles, je vais lui laisser la parole.
Alors c'est vrai qu'on a eu une réunion 14 février, là, concernant un CDEN, un comité départemental de l'éducation nationale, qui, je l'avoue, ne s'est pas trop bien passé. Je veux dire, il y a une certaine tension partout entre les services de l'État, les syndicats, également les élus. Hein, parce qu'on est mis en cause dans beaucoup de choses. Alors, je suis donc vice-présidente des maires ruraux, mais je suis également partie du bureau de l'Union des maires 24, qui a été mise en cause. Il y a eu beaucoup de sous-entendus et des choses un peu moins sous-entendues qui disaient que s'il y avait tant de suppressions de postes à l'éducation nationale dans le département, c'était dû au fait que l'Union des maires, à la majorité, n'a pas signé, même à l'unanimité, n'a pas signé l'avenant de la convention. Que l'on devait signer, soi-disant, on est le seul département de la région à ne pas l'avoir signé, qui mettait en cause des arrangements qu'on pouvait avoir avec l'éducation nationale concernant la suppression de nos postes d'enseignants ou nos fermetures de classes dans le département. Alors cette première réunion, c'est une réunion préparatoire puisqu'elle prépare la rentrée de 2019. Elle n'est pas de bon augure, hein. Je veux dire, on a l'impression que l'État, alors là, moi, je ne parle plus au niveau départemental, parce que quand on va à ce genre de commission départementale, faut qu'on en sorte et qu'on soit ravis. Faut vraiment en sentir toujours bien par rapport à la Gironde, par rapport à d'autres départements. On fait une petite chose, une petite magouille de chiffres régionales. Tout le monde doit en sortir satisfait. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une volonté de l'État concernant les dotations, en poste et en moyens de l'éducation nationale. Et ce n'est pas l'éducation nationale avec qui on doit négocier, c'est aussi avec M. Macron. Alors actuellement, il y a des postes qui vont être supprimés. Le nombre exact, on ne sait pas, puisque c'est une préparation pour la rentrée, donc on espérait qu'ils ne supprimeront pas tout. On parle de 7 postes définitifs, mais en contrepartie, il y a des écoles davantage qui fermeraient soit une classe pour en ouvrir d'autres, qui sont les fameux en réseau d'éducation prioritaire, des CP, des CE1, avec des effectifs de 12. Sauf que quand on ouvre une classe de 12 et qu'on en ferme une de 20, il y a un problème, je veux dire, il y a un manque d'équité. On est obligé de mettre les élèves dans des classes et surcharger certaines pour obtenir des postes. Et puis, bon, c'est pas parce qu'on est en réseau d'éducation prioritaire et que les autres ne le sont pas qu'on ne doit pas avoir le même droit à l'éducation. Je veux dire, dans nos villages les plus reculés, pourquoi on n'aurait pas des classes de CP à 12 comme tout le monde ? Et à ce moment-là, il faut revoir les effectifs et le taux d'encadrement. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas une volonté du gouvernement. Et ça, j'avoue que ça me peine parce que nos écoles rurales, elles pourraient très bien rester ouvertes avec des effectifs beaucoup moindres. Et ça permettrait à tout le monde de vivre en bonne harmonie. Un village qui n'a pas d'école, même si certains maires dont les villages n'ont pas d'école s'en sortent bien, moi j'en ai une, j'ai pas envie qu'elle ferme. Et voilà. Moi je ne comprends pas. L'éducation, c'est primordial dans nos campagnes et partout ailleurs. C'est les citoyens de demain et on n'est pas des citoyens de seconde zone.
Oui, donc l'école, c'est pas simplement une question d'école, c'est une question de services publics, de proximité, de commerce. Ça permet de maintenir la boulangerie du coin, ça permet beaucoup de choses. Et donc cet aspect-là de la ruralité qu'il faut remettre en avant, d'où la nécessité, effectivement, comme tu le dis tout à l'heure, de peut-être d'avoir des classes de 12 à certains endroits.
Il n'y a pas que ça. L'inspecteur d'académie et puis le préfet, ex-préfète ou préfet aujourd'hui, n'arrête pas. Donc un argument, c'est de dire qu'il y a 600 élèves de moins par an en Dordogne. Mais se sont-ils posé la question, où sont ces 600 élèves ? C'est ça, moi, la question aussi que je me pose. Parce que, est-ce que c'est le fait que les parents sont partis ? Ou est-ce que c'est le fait qu'il y en a beaucoup qui partent au privé ? Est-ce que c'est le fait qu'il y a des parents qui ne veulent plus les mettre à l'école pour justement ces raisons-là de proximité qui n'existent plus, des classes surchargées, des choses comme ça ? Moi, c'est une question que j'aimerais qu'on leur pose.
Ça me paraît important. Également les gens qui reprennent leurs enfants et qui font l'éducation à domicile. Mmh. On en a quand même davantage. Ça veut dire qu'à un moment, ils ne sont pas satisfaits de l'offre qu'on a actuellement. Mmh. Et ça, c'est important. On a certainement des enfants en moins, c'est sûr. Mais
il faut rappeler que l'instruction est obligatoire, mais pas l'école.
Voilà, exactement. Et je veux dire, il faut se poser des bonnes questions. À un moment, on ne peut pas faire circuler des enfants, des jeunes enfants. On fait déjà des pré-ramassages parce qu'on a des territoires assez vastes. Mmh. On fait du pré-ramassage et ensuite faire un ramassage pour emmener les enfants à l'école en bus. Et voilà, quand ils sont petits. Et puis, les familles qui viennent s'installer dans nos villages apportent une grande importance au fait qu'il y ait une école. On ne va pas aller à 10 km ou à 15 km du premier chef-lieu ou de la première grande ville pour aller s'installer si on n'a pas les commodités. Il faut arrêter de dire ça. C'est tout simplement inimaginable.
On ne va pas habituer nos enfants maintenant que c'est obligatoire à 3 ans à faire 15 km tous les
jours
pour aller à l'école.
Quand tu parles de l'obligation de les prendre à 3 ans, j'avoue pour nos petites écoles que c'est quand même un avantage. On les prend même avant 3 ans si on a la place. Mmh. Parce que si tu prends un enfant, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens mettent leurs enfants à 3 ans à l'école. Hein, 90 ou 95% le font. Pourquoi ? Parce que l'école, ça permet d'aller travailler, de laisser ton enfant sans que ça te coûte des 100 et des 1000. Hein, parce que il faut reconnaître qu'ici, les emplois ne sont pas super bien payés, que quand il faut faire garder son enfant, on est aussi content qu'il rentre à l'école avant. Et puis voilà.
Oui, et puis c'est un meilleur apprentissage.
Voilà, moi je pense aussi. Puis la vie en collectif est très bonne.
Non, puis c'est bien pour l'école publique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'obligation à 3 ans permet indirectement le financement des écoles maternelles privées par la commune.
Ça ne m'inquiète pas. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, déjà, on prend des enfants à moins de 3 ans si on peut les prendre, parce que ceux-là, à partir du moment où un enfant fait sa rentrée dans une école, il y reste. Si tu le perds à 3 ans et que la commune voisine ou la commune du chef-lieu le prend, il ne reviendra pas dans nos communes. Donc c'est un effort qu'on fait depuis des années, mais ça, je veux dire, moi, ça ne me choque pas. J'ai déjà payé pour des enfants de moins de 3 ans et je continue continuerais volontiers si on vient me les amener.
Oui, non, mais je parlais pour l'école publique, mais oui, c'est vrai que si demain tu as une école privée qui s'installe dans la commune d'à côté, et tes enfants de ta commune,
tu parles de l'école privée, comme si c'était un gros mot. Moi, je suis désolée, si demain on ferme mon école publique, peut-être je ferai une école privée. Peut-être j'irai au devant des demandes des parents en disant ben, qu'est-ce que la collectivité peut vous faire faire pour vous aider à faire, pour qu'on ait un moyen d'éduquer nos enfants sur notre territoire. Pourquoi pas ? Personne ne peut nous en empêcher. Puis voilà, je veux dire, on est en train de changer de paradigme. C'est le grand mot, ben là, c'est le cas.
Tout à fait. Et sachant en plus qu'il faut dire, malgré tout, parce que ça, on oublie de le dire, c'est qu'on a des enseignants dans Dordogne qui sont de très, très bonne qualité.
Bien sûr.
Donc se passer, supprimer des postes avec des gens qui d'abord aiment leur métier et aiment leur métier à la campagne, c'est quand même dommage, quoi, parce que moi je le vois, les enfants qui sont sortis ou qui sortent de l'école ont un niveau dans la ruralité qui est souvent supérieur à celui qui vient d'une métropole. Pourquoi ? Parce que ça, on peut en remercier les enseignants. On a des enseignants d'excellente qualité. Donc ça, il faut le garder.
Je voulais parler un petit peu aussi du problème du numérique par rapport à la ruralité. Toi, tu es un petit peu le spécialiste de cette question. tu peux dire un petit mot là-dessus.
Oui, mais sur le numérique, il y a deux choses d'abord. Je vais d'abord parler de la téléphonie mobile sur les zones blanches. Bon, je fais partie de l'équipe projet du département avec monsieur le préfet. Il y a bien sûr les opérateurs, il y a mon collègue de l'AMF. On travaille à l'heure actuelle sur l'implantation des fameux 5000 pylônes. Alors bien sûr, en Dordogne, on aimerait en avoir davantage, c'est sûr. Bon, mais quoi qu'il arrive, il va en arriver en Dordogne. On a réussi à en obtenir 6 ou 7 de plus. Et ça, il faut en remercier, c'est vrai, cette équipe projet qui est dirigée par le préfet. Donc moi, je sais que pour mon secteur, je suis assez... Alors bien sûr, on n'est pas autour de Périgueux, mais on est autour de Bergerac. Sur Bergerac, je pense que dans les années à venir, nous obtiendrons... J'ai obtenu Fraisse où il y aura 2 pylônes, ça c'est important. J'ai obtenu la Monzie-Montastruc, j'ai obtenu Monestier. On est en train de travailler sur Faux. Et puis sur le côté périgourdin, il va y en avoir aussi. Il va y avoir la Gémaille, il va y avoir, alors de mémoire, il y a Grand Brassac, il y a... Saint-Privat-des-Prés, y en a tout un tas, et ça avance petit à petit. Alors c'est vrai que quelque part, on attend aussi par rapport aux opérateurs, parce que les opérateurs ont leur pylône à poser, il y a aussi la 4G fixe qui va arriver. Donc là, il y a un certain nombre de pylônes qui vont être équipés et qui pourront passer directement en 4G et en 4G fixe. C'est, des fois, ça peut sauver des situations. En ce qui concerne le très haut débit, alors donc... comme j'avais dit, le président Perrault, le président du SMPN, dont je fais partie aussi en tant que délégué, avait dit qu'il allait fibrer toute la Dordogne. Donc c'était pas en communication, c'est pas exactement ce que moi je ressentais. C'était plutôt... il s'est repris d'ailleurs, le Germinal Perrault s'est repris en disant qu'il avait fibré tous les centres-bourgs. Ça s'est fait, c'est vrai, mais beaucoup sur des montées en débit. Donc la montée en débit, elle a ses avantages et ses inconvénients. Son inconvénient principal, inconvénient, je trouve, c'est bien sûr le cuivre. C'est tout raccordé par du cuivre pour avoir Internet et la DSL. Mais c'est vrai qu'il a lancé maintenant la première phase de la pose vraiment de la FTTH, c'est-à-dire de la fibre. Ça a l'air d'être bien parti. Donc il y a des NRO... c'est-à-dire des nœuds de raccordement optique, ça c'est ce qui va vraiment délimiter chaque citoyen pour avoir la fibre chez lui. Donc les trois phasages qui avaient été prévus, c'est-à-dire le Terrassonné, le Sarladé, la vallée autour de Périgueux, Boulazac et puis la vallée de Lys. Aujourd'hui, nous avions obtenu une plaque à Bergerac de 8,5 millions. L'autre jour, je suis allé délimiter avec les gens du SMPN là où on allait mettre ce nœud de raccordement optique. Donc ça démarre pour la partie est de la CAB et du Bergeracois. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est la phase 2 et 3, sachant que l'État ne participera pas au financement. Bon, on a acquis que la région serait cautionnerait, donc participera aussi, le département aussi. Mais bon, là, les conséquences, c'est que On avait deux solutions. Il y a deux solutions qui sont encore en discussion. C'est-à-dire, un, de faire une zone AMEL, c'est le pendant de la zone AMI dans la ville de Bergerac et de Périgueux, c'est-à-dire fibrer le restant du département par les opérateurs, par ces fameuses zones AMEL. Mais aucun opérateur n'a souhaité fibrer le département à 100%. Je crois que Orange a fait une proposition de 80% et SFR un peu plus, mais bon, pas dans les mêmes conditions. On parle aussi beaucoup de population, mais pas de territoire. Donc il y aura des territoires qui ne seront pas desservis de suite. J'ai l'impression que le président du département souhaiterait, à travers les trois personnes qui se sont occupées de ça, c'est-à-dire Alain Cournil, M. Debelle et puis M. Boisdet, j'ai l'impression qu'on va vers une proposition d'emprunt pour fibrer 100% du département. Mais forcément, les conséquences de ça, c'est qu'on demandera beaucoup plus de participation aux EPCI. Et là, ça risque d'être un danger pour les EPCI. Enfin, un danger, ça va être un coût supplémentaire pour les EPCI. Moi, je vois à peu près, si on fait le ratio de l'emprunt qu'il faut faire, aux alentours de 200 millions d'euros, plus ou moins, je donne une marge assez large, je pense que ça va doubler la participation, par exemple, moi, de mon EPCI. Et si moi, je double au niveau de mon EPCI, c'est tous les EPCI seront dans le même cas. Voilà. Donc, l'avantage de ce que propose le président Perrault, c'est qu'il s'engage à fibrer la Dordogne d'ici 2025. Donc, et 100%. Donc ça, il faudra regarder si c'est...
100% parce que, bon, j'avais entendu dire que les opérateurs étaient prêts à mettre un certain nombre de pylônes pour pouvoir effectivement améliorer...
C'est pas des pylônes, là. Là c'est pour la fibre.
Je parle de manière générale numérique, mais que, bon, ces pylônes-là, il faut les alimenter en électricité, et que l'électricité, c'était à charge de...
Là, tu confonds. Il faut pas confondre. La fibre, il ne faut pas confondre la téléphonie mobile. Là, tu parles de téléphonie mobile, tu parles des pylônes pour la téléphonie mobile, pour les zones blanches. C'est vrai que dedans, il y a le coût de la desserte électrique qui est assez important. Par contre, si des mairies trouvent des terrains viabilisés et amènent à la desserte électrique, forcément, dans l'allocation que l'opérateur paiera à la commune, il y aura bien sûr cet investissement de compris dedans. C'est-à-dire qu'il y aura un retour sur investissement pour la commune. Ça paraît logique.
D'accord. J'ai fait un petit entrave parce que bon, c'est important de le dire aux communes parce que bon, c'est celles qui n'ont pas de téléphonie.
Il y a deux choses qui peuvent vraiment aider la ruralité. Mmh. C'est d'une part la mobilité et derrière ça le numérique.
Donc on va finir par rapport au grand débat. Donc tu disais que vous étiez peut-être en fonction des résultats de ce grand débat, il y aura peut-être une grande mobilisation des maires ruraux, peut-être.
Peut-être. Ouais. Peut-être c'est une éventualité. On a plusieurs éventualités. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je continue le combat par rapport à justement au fait qu'on veut absolument obtenir quelque chose et on veut être considéré. Moi, il est toujours question de ne pas rendre les élections européennes au mois de mai. Tout le monde nous parle des élections européennes, mais personne n'aborde ce sujet. Nous, aux maires ruraux, on l'a redit à la dernière Assemblée générale pendant le Congrès des maires à Paris, nous travaillons dessus sur le fait qu'on ne rendra pas les élections européennes. On les fera, mais on ne rendra pas les élections européennes
le soir
des élections. Voilà.
D'accord. Eh bien, on va clore cette émission. Puis on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission « Ma commune est utile ». Je vous remercie de votre attention.
Merci.
À bientôt.